Pour cette dernière journée, j'aimerais demander dans la salle qui sont là, qui pour aujourd'hui, qui n'ont pas suivi les trois premiers jours, qui sont venus seulement aujourd'hui. Levez bien la main. Ok, il y a quelques personnes. Merci beaucoup. Soyez vraiment bénis pour votre présence parmi nous. Comme vous avez pu le constater, nous sommes cette organisation qui aime le Seigneur. Nous sommes tout simplement une organisation au service de toute l'Église du Seigneur. Donc si vous êtes membre de l'Église du Seigneur, vous êtes réellement déjà prédisposé à être membre des FIMES. Lèvons-nous et bâtissons. C'est ça le thème que nous nous sommes dit que nous devons développer tout le long de ce camp biblique. Et nous ne pouvons pas, s'il faut parler de la famille, 4 jours, c'est insuffisant. Même si on prend une semaine pour parler de la famille en profondeur, c'est insuffisant. Parce qu'il y a tellement, beaucoup d'aspects que nous pouvons développer en parlant de la famille. Nous avons, je dirais, frôlé pendant ces camps un peu d'essentiel de la famille. Parce qu'on peut parler seulement de dialogue dans la famille, tout un thème, tout un camp biblique peut être seulement sur le dialogue, tout un camp biblique peut être seulement sur la sexualité, tout un camp biblique peut être sur juste l'amour, parler de l'amour, parler de l'alliance, parler de la nudité, comment nous devons vraiment être sans honte entre nous, vivre une vie. Quand le diable nous regarde, il dit que mais ces gens, ils sont tellement transparents entre eux qu'ils sont réellement mariés. Parce que être marié, les gens pensent que être marié, c'est seulement l'acte sexuel. Être marié, c'est on se marie. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. On ne peut pas être penser seulement à l'acte sexuel, mais on n'est pas des amis. Si on n'est pas des amis, on n'est pas marié. L'homme et la femme doivent être des grands amis, les premiers confidents. Ça ne doit pas être mes parents. Le premier confident doit être mon mari ou mon épouse. Ça, c'est être marié. Et aussi spirituellement, nous devons recevoir, comme le pasteur Petre était en train de dire, je ne vois pas comment un chrétien peut être marié à un musulman. Ça, c'est pas le mariage. Et je suis d'une base, un background technique. Je suis ingénieur. Prenez le cuivre avec le fer. Quand vous essayez de souder, ça peut pas se souder le cuivre et le fer. Et c'est ce que les gens essayent de faire. On prie dans une église où la doctrine n'est pas basée sur la parole, elle n'est pas basée sur l'amour. Et l'autre est dans une église où la parole de Dieu, c'est ça la base. Le mariage, là, il est difficile. C'est un mariage voué à l'échec plus tard. Parce que la finalité de ce livre que nous sommes en train de méditer, la Bible, la finalité, c'est l'amour. Tout ce que nous devons faire, la finalité, c'est l'amour. C'est pour cela que Paul est arrivé à faire une conclusion que je peux prêcher, je peux parler en langue, je peux être le plus grand spirituel possible. Mais sans amour, je suis tout simplement une cymbale qui retentit. C'est ça la vie chrétienne. Et dans le mariage, c'est vraiment la même chose. La finalité de toutes choses, c'est vraiment l'amour. Un enseignement, par exemple, voilà, parce que vous êtes converti, vous ne pouvez plus téléphoner à vos parents, vous ne pouvez plus parler à vos membres de famille, vous ne pouvez plus. Ce n'est pas un enseignement biblique, c'est diabolique. disons les mots comme il le faut. C'est vraiment diabolique. Parce que la finalité des Écritures, c'est l'amour. Dieu a tellement aimé qu'il a donné. J'ai dit cela en conséquence de quoi? J'entends beaucoup, beaucoup d'enseignements. Je connais une famille, ils sont arrivés maintenant à dire, je ne peux plus, moi, téléphoner. Ça fait 5 ou 6 ans, n'a même pas de nouvelles de ses parents. Tout simplement parce qu'il est entré dans une secte, on leur dit, non, là, c'est vraiment, il ne faut plus, les membres de famille, c'est la servitude, les membres de famille, c'est, il ne faut, mais c'est diabolique. La finalité de la parole de Dieu, si on est converti, c'est l'amour. Dieu nous a aimés en tant qu'Église. Je ne sais pas pourquoi je commence par là. Dieu nous a tellement aimés nous n'étions pas aimables. L'Église n'est pas aimable. Et Dieu nous a aimés tel quel. Et Jésus-Christ qui est mort pour nous, qui est aujourd'hui le patron de notre Église, quand il nous voit vivre, il nous voit, mais comment ils sont comme ça? Mais il nous aime tellement que nous devons faire comme il fait. Nous devons aimer même ceux qui ne nous aiment pas. Même si je connais que mon petit frère, c'est un sorcier, je dois l'aimer. Si je connais mes parents sont des sorciers, je dois les aimer. Si vous aimez seulement ceux que vous aimez, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Rien du tout. La vie chrétienne, c'est une vie extraordinaire. Parce que le Seigneur a mis en nous, par l'action du Saint-Esprit, le potentiel qui fait que nous pouvons aimer même ceux qui ne nous aiment pas. Amen.
Amen.
Lèvons-nous et bâtissons. C'est vraiment un élan, c'est un défi. C'est vraiment un défi. Parce que les choses qui ont été détruites sont vraiment énormes dans la vie d'une famille. Quand on regarde comment on a commencé, quand on était comme fiancé, après on s'est marié, après on a des enfants. Si nous pouvons regarder les cheminements, nous allons voir comment les choses sont en train d'être détruites. Avant, peut-être que je ne pouvais pas dormir sans téléphoner à ma fiancée. Quand je suis marié, au travail, quelques minutes que je téléphone. Et après un temps, tellement qu'il y a des choses qui s'accumulent, l'ennemi qui prend de la place, l'ennemi qui prend de l'élan, l'ennemi qui détruit, à tel point quand on regarde maintenant le téléphone, c'est elle, on éteint. L'ennemi, là, il a vraiment pris du terrain. Il a détruit. Et c'est ça qui s'accumule dans les familles du jour au jour. Voilà pourquoi nous allons parler aujourd'hui de la restauration. Nous allons parler de la restauration. Et la restauration, c'est un défi. Un défi dans le sens que moi, j'ai ma part en tant que mari. Tu as ta part en tant que femme. Tu as ta part en tant qu'enfant. Voilà pourquoi nous avons donné la parole aux enfants dans ces camps, pour qu'ils témoignent, pour que les autres enfants entendent qu'on peut réellement vivre la vie chrétienne en tant que jeune. Et je vais plus loin, non seulement vivre la vie chrétienne en tant que jeune, mais même en tant que jeune, on peut apprendre à donner. On peut apprendre à donner. Je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'il y a une personne qui a le t-shirt de Fimes dans la salle? Et oui, tu peux chercher un t-shirt de Fimes pour moi. Un petit instant. Je voulais dire quelque chose avec ce t-shirt. Nous avons été hier, c'est vrai, c'était très impressionnant. Nous avons écouté comment l'Américain était en train de parler. Du jamais vu On est dans un bus, on circule dans la ville, mais après un certain moment, le bus va entrer dans l'eau. Et c'est du jamais vu, non, Meda. C'est pour cela qu'il nous disait hier, mais depuis qu'il est né, il n'a jamais vu ça. Mais pourquoi je prends tous nous étions habillés avec ces t-shirts. On peut peut-être se demander d'où viennent ces t-shirts. Ce sont des jeunes. Et ces jeunes se sédivent avec son frère, avec sa sœur, qui ont cotisé. 3 enfants. Ils ont cotisé. Ils ont acheté eux-mêmes les t-shirts. C'est pas sorti dans le compte de FIMES. Ils ont cotisé. Ils ont fait imprimer eux-mêmes tout ce que vous voyez. Comment de tels enfants ne peuvent pas être bénis? Comment de tels enfants ne peuvent pas être bénis? Et quand ils le font comme ça, ils sont enfants. Comment vous pouvez vous imaginer quand ils vont grandir? Et l'ennemi, quand il voit comme ça, il dit, ça ce sont des éléments à battre. Voilà pourquoi nous devons prier pour nos enfants qui ont compris l'importance du royaume. Et nous avons filmé hier, quand nous étions en train de partir, comment les mamans, les papas étaient en train de parler du Seigneur avec les t-shirts habillés à 10 et 16. C'est vraiment... nous devons savoir qu'on ne peut pas attendre de servir le Seigneur seulement quand on va devenir grand. Des enfants, nous devons déjà apprendre que nous devons servir le Seigneur, donner pour le Seigneur. Et quand on voit les parents ne donnent pas, il faut secouer les parents pour leur dire, est-ce que vous avez donné votre dîme cette année? Donnez même à l'église, donnez à une organisation évangélique qui travaille pour le Seigneur. Il y en a beaucoup à travers le monde. Amen.
Amen.
Prenons nos Bibles dans Abdias. C'est un livre, il faut consulter la table de matière, un petit livre dans l'Ancien Testament qui n'est pas très lu. Abdias, juste un chapitre. C'est pour cela qu'on dit, on lit seulement 2 versets. Abdias, le verset 17 et le verset 18. Sur la montagne de Sion, il y aura des rescapés. Ils seront saints. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu, la maison de Joseph une flamme, mais la maison d'Ésaü sera du chaume. Qu'elles allumeront et consumeront, il n'y aura aucun survivant pour la maison d'Ésaü. Car l'Éternel a parlé. Deux maisons, la maison de Jacob et la maison d'Ésaü. Jacob représente la promesse. Ésaü représente la personne que Dieu n'a pas acceptée, la personne que Dieu n'a pas bénie. Nous devons faire un choix aujourd'hui. Nous devons faire un choix pour dire où est-ce que nous allons être. Parce que la restauration exige de l'obéissance. Et quand on a de l'obéissance, le verset 17 dans la deuxième partie nous dit « Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. » Les possessions, ce sont ce que l'ennemi a volé. L'ennemi a volé beaucoup de choses dans les familles. Beaucoup de choses. Il n'y a plus de joie dans la famille. Il n'y a plus même les rires dans la famille. Il n'y a plus de gaieté dans la famille. L'amitié dans la famille n'existe plus. Tout cela a été volé par l'ennemi. Nous devons aller dans le camp de l'ennemi pour reprendre nos possessions. Nous devons reprendre la joie dans la famille. Le royaume des cieux, c'est la justice, la joie et la paix dans la famille. Nous devons apprendre à aller dans le camp de l'ennemi, reprendre ce que l'ennemi a volé. Et ça demande une détermination. Ça demande un défi, chacun personnellement. pour dire, je ne sais pas ce que mon mari va faire, je ne sais pas ce que mes enfants vont faire, je ne sais pas ce que ma femme va faire, mais moi, je suis déterminé à reprendre tout ce que l'ennemi a volé. Il y a beaucoup de choses. Tout ce que l'ennemi a volé dans la famille. Et nous vivons dans la famille comme les chiens et les chats. Comme des ennemis dans la famille. Ça, c'est pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que la famille, c'est le paradis sur la terre. Là où règne la paix, là où règne la joie, là où règne le bonheur. C'est l'exemple de paradis sur la terre, la famille. Et tout cela a été perdu. Nous devons les reprendre. Et ça exige la détermination de chacun, la détermination de chacune. Amen.
Amen.
Votre adversaire, mon adversaire, ce n'est pas ma femme. Souvent, on pense que l'adversaire, c'est mon mari, l'adversaire, c'est ma femme. Retenons, frères et sœurs, que l'adversaire dans la maison, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, ce ne sont pas tes enfants. C'est l'ennemi qui est présent, qui rôde comme un lion rugissant. Il cherche quelle est la parole que tu vas prononcer. Une petite parole, une petite étincelle, il va l'utiliser pour détruire. Toi, tu la considères comme une petite parole. Tu dis que mais toi, tu es toujours imbécile dans cette maison. Tu as prononcé une petite parole. Mais comment cette parole est reçue dans le camp adverse? Une bombe. Cette petite parole que tu as prononcée, elle a été amplifiée pour qu'elle atterrisse dans le cœur de la personne, de votre partenaire, vraiment comme une bombe. Et cette parole va faire que comme c'est une bombe, la personne va prendre la décision. Je veux maintenant agir dans cette maison pour qu'ils sachent que c'est moi le chef. Alors, tout ce qui va suivre, c'est la vengeance sur vengeance. L'homme agit par vengeance. La femme continue avec les paroles par vengeance pour continuer à nuire, à détruire. Et à la finalité, qu'est-ce qui va exister à la fin? On va apparemment voir une famille, mais ce qu'on voit, c'est une famille divorcée. Apparemment, on les voit ensemble, mais ils ne sont plus amis. Apparemment, on les voit ensemble, mais ils n'ont plus le même esprit, ils n'ont plus la même vision. Là, le mariage n'existe plus. Le mariage existe tout simplement par apparence, mais réellement, au fond, il n'y a plus de mariage. Ce sont les hommes qui vous voient mariés, mais quand Dieu vous regarde, vous n'êtes plus mariés, vous êtes divorcés. Tout simplement parce que nous avons amené la semence qui n'encourage pas la vie de la famille. La semence. Apprenons dans ces camps, surtout dans cette journée de restauration, nous devons savoir s'aimer ce que nous pouvons récolter. Quand nous sèmons de l'amour, nous allons récolter de l'amour. Quand nous sèmons la méchanceté, c'est la méchanceté que nous allons récolter. Et si chacun prend la décision de décider que désormais, je ne veux plus s'aimer n'importe quoi dans ma maison. Ce qui va sortir au bout du tunnel, ça sera que pour honorer et glorifier le Seigneur. Toujours dans les environs d'Abdias, il y a un prophète, Joël. Prenons-le. Nous allons commencer avec le premier chapitre, Joël. Chapitre 1 de Joël, nous allons voir les processus, comment cela a commencé des destructions. Le verset 3, le verset 4. Racontez-la à vos fils et que vos fils les racontent à leurs fils et leurs fils à la génération suivante. C'est que la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la chenille, avant c'était peut-être la joie. Après, la joie est partie. Après la joie, c'est peut-être l'amitié. Après l'amitié, c'est peut-être telle ou telle chose. Les choses se sont tellement dégradées du jour au jour. Et le texte nous dit, ce que la chenille a laissé, la sauterelle l'a dévoré. Ce que la sauterelle a laissé, les grillons l'a dévoré. Mais ce que les grillons a laissé, le criquet l'a dévoré. Et le verset 5, réveillez-vous, ivrogne, pleurez. Vous tous buveurs du vin, lamentez-vous, parce que le jus du raisin vous est enlevé de la bouche. La destruction sur la destruction. Ça ne commence pas en un jour ou en une fois. Comme je disais hier, c'est des petites choses qui s'accumulent, qui ne font que détruire. Les sauterelles viennent, enlèvent. Les grillons viennent, enlèvent. Ainsi de suite. Et le diable est en train d'enlever petit à petit toute la substance dans la famille, dans le mariage, au point où à la fin, on sent, il n'y a plus rien, je ne sens plus rien. Au contraire, je préfère rester au bureau toute la journée et venir à la maison seulement pour dormir. Parce qu'il n'y a plus rien. On ne sent plus rien. Au contraire, la personne, quand on voit la personne, ça vous énerve. Pourquoi tu viens entrer dans ma chambre? D'ailleurs, les chambres sont séparées. Pourquoi tu viens entrer dans ma chambre? Donc là, il n'y a plus rien. Nous allons dans le chapitre 2 pour montrer que avec Dieu, rien n'est perdu. Rien n'est perdu avec Dieu. Nous sommes peut-être arrivés à un niveau, nous pensons que c'est un niveau irrécupérable. Mais Dieu voudrait nous parler en Joël 2 à partir du verset 23. Et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse. C'est une parole de réconfort, c'est une parole de joie, c'est une parole qui nous montre que tout n'est pas perdu. Réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous a donné la plus salutaire. La parole de Dieu, c'est la plus salutaire. Le camp biblique, c'est la plus salutaire. Il voudrait vraiment, au travers tout ce que nous avons entendu, que nous puissions faire quelque chose, faire un pas. Il a fait descendre l'averse pour vous, pluie d'automne, pluie de printemps, au premier mois. Le verset 24. Les airs se rempliront des grains et les cuves régorgeront de vin nouveau, d'huile. Verset 25. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Un jour, la sauterelle a dévoré. Les grillons a dévoré. Il n'y a plus rien. Mais ça dépend de nous maintenant. Qu'est-ce que nous prenons comme décision? Est-ce que nous voulons que les choses arrivent jusqu'à anéantir tout? Ou nous pouvons dire, Seigneur, avec toi, je ne peux pas moi-même. Avec toi, je vais essayer. Je vais te regarder. Je vais réellement rebâtir. Je vais récupérer les possessions vraiment que l'ennemi a volées dans mon cœur, vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de mes enfants. Des parents, les maris, qui sont sortis de la maison, dont les enfants, ça ne leur plus dit rien. Même si on le dit, mais tu sais, tes enfants n'ont plus rien à manger. Je m'en fous. Ce n'est pas un parent qui peut répondre de cette manière-là. Tout simplement, l'ennemi a tellement rongé son cœur qu'il n'y a plus rien qu'il les ressent, même à l'endroit de ses enfants, à l'endroit de son mari, à l'endroit de sa femme. Et cette parole concerne même les jeunes. Les jeunes qui pensent que j'ai tellement détruit ma vie, j'ai tellement abusé, je suis allé de tel fiancé à tel fiancé. Mais le Seigneur vous redonne espoir en disant, je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je vous restituerai cela. Et nous devons saisir une telle parole par la foi pour dire, Seigneur, ça me concerne. Je dois voir réellement la joie revenir dans ma maison, la paix revenir dans ma maison. Je dois voir réellement comment j'étais en train de jouer. Une soeur me disait, mais pasteur, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire pour que cela revienne. Quand j'étais au début de mon mariage, mon mari me transportait, me mettait sur les épaules. Mais qu'est-ce que je dois faire encore? Dit que on s'est tellement blessé qu'il ne peut plus faire encore cela. Mais nous devons tellement nous accrocher au Seigneur pour que cela revienne. Nous devons revenir à notre premier amour. Et le Seigneur dit, je vous restituerai ce qu'on dévorait, la sauterelle. Je vous restituerai cela. Qu'on dévorait la sauterelle, les grillons, les criquets, la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait des miracles pour vous. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Aujourd'hui, quand on parle, on cite votre nom, c'est la honte. Quand on cite le nom de votre mari, c'est la honte. Le nom de la famille, c'est la honte. Mais notre Dieu, c'est le Dieu qui reconstitue, qui régénère, qui recrée. Là où il n'y a rien, le Seigneur est capable de les créer. Et nous devons l'accepter pour dire, Seigneur, me voici. J'ai été tellement méchant. J'ai été méchante à l'endroit de mon mari, à l'endroit de ma femme, à l'endroit de mes enfants. Je voudrais recréer quelque chose de nouveau. Ça demande un défi pour s'accrocher à la parole, pour que la parole produise des fruits dans notre vie. C'est un défi que nous devons relever devant l'ennemi qui rôde, qui voudrait que les choses s'empirent, que les choses se détruisent davantage. Allons-y à notre dernier texte, frères et sœurs. Je ne vois pas le modérateur, peut-être qu'il va me donner un temps illimité. Allons-y en Jean, au chapitre, Jean, chapitre 1er. Non, c'est Jean chapitre 2, à partir du premier verset, nous allons lire jusqu'au verset 12e. Ça, c'est un texte qui nous montre vraiment la restauration de la famille, la valeur que Dieu peut donner à une famille. Ce sont les noces de Cana. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée et la mère de Jésus était là. Jésus fut invité aux noces ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Mais ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent qu'en haut, jusqu'en haut. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert du bon vin, puis le moins bon qu'après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le commencement du miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples et n'y demeure que peu de jours. Frères et sœurs, nous avons parlé tout le long de ces camps bibliques, sur le mariage qui est en fait le centre de la famille. C'est là que tout commence. Et le tout premier miracle de notre Seigneur Jésus, c'était dans une fête de mariage. Et ce n'est pas par hasard. C'est pour montrer combien Dieu tient à l'importance du mariage, à l'importance de la famille. Et quand nous regardons vers la fin, quand le miracle est accompli, le verset 11, la manifestation de la gloire de Dieu a commencé dans le mariage, dans cette fête. C'est pour cela qu'il dit, quand cela, tel fut à Cana en Galilée, le commencement des miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire. Pour la première fois, la gloire a été manifestée dans un mariage. Et c'est ça même le but du mariage, pour que Dieu soit glorifié dans la famille. C'est une des raisons d'être même de la famille, pour que la gloire de Dieu se manifeste constamment dans la maison. La gloire de Dieu doit constamment se manifester dans la maison. Mais ce que nous devons savoir, que comme nous avons laissé la place à l'ennemi, nous avons dit, la famille, c'est un champ de bataille. La famille, c'est un champ de bataille. Les éléments qui composent la famille, papa, maman, enfant, doivent être en équipe pour combattre l'ennemi. Mais quand on commence à se tirer dessus, on change l'adversaire. L'ennemi n'est plus notre adversaire. Notre adversaire devient notre mari. Notre adversaire devient notre femme, nos enfants. En ce moment-là, on est une équipe. Au lieu de constituer une équipe unie qui gagne, nous constituons une équipe divisée, mais qui ne fait que perdre, qui ne fait qu'aller sur la pente vraiment glissante. C'est pour cela que le vin peut arriver à manquer dans la famille. Le vin symbolise la joie. Le vin symbolise la paix. Le vin symbolise ce bonheur. Au lieu que le mariage, la famille, soit le paradis, quand le vin manque, ça devient vraiment de l'enfer. Ça devient chacun pour soi. Les enfants préfèrent rester chez les amis. Le papa préfère rester au travail. Même s'il n'y a pas d'heure supplémentaire, même si on ne le paye pas, il préfère rester travailler. La maman préfère rester en dehors. Elle viendra à la maison seulement pour dormir. Là, le vin a déjà manqué. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de bonheur de vivre ensemble. Le vin a manqué. Amen.
Amen.
Mais ce qui est important dans ce récit de noces, c'est que quand le vin a manqué, il y a au moins une femme qui sait voir. Les hommes ne peuvent pas voir. C'est pour cela que nous disions hier, la femme dans la maison, c'est vraiment un radar. Et nous, les hommes, nous devons apprendre à développer ces radars, encourager nos épouses à passer des moments d'intimité avec Dieu. Et Dieu va lui montrer des grandes choses. La femme doit développer les radars. Et c'est mari qui va constater, mais ils n'ont plus de vin. Ça, c'est une femme. Et ce genre de femmes doivent être recherchées dans la famille, qui sait voir, qui sait sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. La femme que Dieu a placée à côté de l'homme. Tout simplement parce que l'homme seul ne se suffit pas. On pense, parce qu'on est costaud, on a des biceps, on est fort, mais c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui a vu que l'homme n'est pas bon qu'il soit seul. Et nous devons vraiment comprendre et réaliser cela, que la femme est très importante. Très important. Et même quand il y a des conflits, laissez-moi vous dire un secret, mes chers collègues mari, quand il y a des conflits entre l'homme et la femme, souvent, Dieu va prendre la part de la femme. Je vais vous donner un exemple. Un jour, il y a un conflit entre Sarah et Abraham. Parce que Sarah veut que cette femme, la servante, et doit quitter ma maison avec son enfant. C'est un acte de manque d'amour. C'est un acte cruel. Ils vont partir où? Et Abraham, qu'est-ce qu'il va dire? Il va être mécontent. Il dit que mais cette femme, là vraiment, je ne veux pas marcher avec elle parce que là, elle va dans un acte, elle va trop fort avec la pédale. Mais qu'est-ce que Dieu va dire? Obéis, écoute ce que ta femme te dit. Écoute ce que ta femme te dit. On va dire que Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu est correct. Écoute, c'est pour dire aux maris qui sont dans la salle, apprenons à écouter nos épouses. Et Dieu va nous répéter encore plusieurs fois, écoutez vos épouses. Des fois, elles reçoivent plus de choses que nous. Nous sommes toujours partis, ainsi de suite. Bon, le modérateur me dit qu'il veut être sûr que tout le monde a déjà libéré sa chambre. Il ne faudra pas encore qu'il y ait des choses dans la chambre maintenant. Si vous n'avez pas descendu vos choses, vous pouvez rapidement aller les descendre parce qu'on n'aimerait pas recevoir une facture en plus. Merci. Donc, je parlais de cette femme qui va constater qu'il y a un « ça ne va pas », Marie. Et quand il y a un « ça ne va pas », au lieu d'aller chez les mariés pour leur donner conseil, mais elle va chez son fils. Parce qu'elle a gardé cet enfant 9 mois. Chère maman, vous gardez les enfants 9 mois. Vous connaissez les secrets des enfants. Le vrai prototype de l'amour, c'est la maman qui doit nous enseigner comment aimer. Et elle va voir son fils pour dire à son fils, ils n'ont plus de vin. Tout simplement pour dire, nous devons apprendre à aller chez le Seigneur. Seigneur, tu vois, je n'ai plus de vin dans ma maison. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de bonheur. Je ne veux plus rester dans ma maison. Il n'y a plus de sourire, il n'y a plus rien. C'est au Seigneur qu'il faut partir. C'est vers le Seigneur qu'il faut partir. Mais qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est qu'elle va chez son fils. Elle va parler à son fils. Mais regardons qu'est-ce qui suit après. Elle va aller chez les disciples. Elle n'a jamais assisté à aucun miracle. Jamais. Elle n'a jamais assisté à aucun miracle de son fils. Mais elle va dire aux disciples, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Et c'est la même chose qu'il nous dit aujourd'hui encore. Nous devons retourner à la parole. Le vrai bonheur d'un couple, c'est retourner à la parole. Ce que Dieu dit, c'est ça qui rend réellement un foyer, une famille solide. Ce que Dieu dit, c'est ça qui rend réellement le foyer ou la famille béni et sauvé. Faites ce qu'il vous dira. Et les disciples aussi ne comprennent rien. Qu'est-ce qu'il va nous dire? On ne l'a jamais vu faire quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ce qui va suivre, frères et sœurs, est très très important. Le Seigneur va réellement prendre les choses au sérieux. Il va regarder tout autour de la fête. Et le verset 6 nous dit, il y avait là 6 jarres de pierre, les vases dans lesquels il y avait un autre besoin. Et le besoin, c'était destiné aux purifications des Juifs. Et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Mais pourtant, quand le vin a manqué, il y avait des vases dans lesquels le vin qui a manqué existait. Jésus-Christ ne va pas utiliser ces vases-là pour créer un autre vin. Est-ce que vous comprenez? Ce vin-là était fait sur base des traditions juives. Souvent, nous prenons nos traditions pour bâtir le mariage. Quand on prend quelle que soit la nouveauté que nous voulons créer dans la famille, nous voulons créer ça sur base des traditions que nous avons trouvées, les traditions africaines, canadiennes, américaines, européennes. Tout simplement, le mariage voit à l'échec. Nous devons chercher de nouvelles vases. Et ces vases ont été destinés aux besoins spirituels, à la purification. Et c'est ça qui va utiliser autre chose que ce qui était prévu. Amen.
Amen.
Et pourquoi je dis cela? Parce que souvent, C'est que quand nous avons par exemple un mari païen, nous sommes en train de dire, Seigneur, convertis-le, change-le. Mais pourquoi? Pour moi, parce que je veux être bien, je veux vivre bien. Nous sommes tout simplement égoïstes. Et la demande, ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Cherchez le changement de votre mari pour la gloire de Dieu dans la maison. Pas pour vos besoins personnels, pas pour votre égoïsme personnel. Et quand nous cherchons la gloire de Dieu, Dieu se manifeste. Et ce vase qu'on va utiliser, c'était le vase destiné à la gloire de Dieu. Et ça va apporter quelque chose du nouveau, quelque chose, le changement dans la maison. Le Seigneur va utiliser des vases destinés à la purification, aux besoins spirituels. Souvent, nous voulons faire passer nos besoins charnels, nos égoïsmes avant. Parce que je veux être bien, parce que je veux réellement... je veux vraiment que mon mari se convertisse, ma femme se convertisse, parce que j'aimerais être comme tel. Je voudrais sortir avec mon mari en le tenant par la main, en faisant comme les autres. Mais est-ce que la gloire de Dieu est recherchée là? Est-ce que nous voulons réellement que notre famille soit bâtie sur des besoins spirituels pour que la gloire de Dieu se manifeste dans la maison, dans la famille? Ce premier miracle, quand il a été produit, c'était, et nous regardons, il manifesta pour la première fois la gloire de Dieu dans cette fête. Et tous ceux qui étaient là, ils ont cru. Notre famille doit être la manifestation de la gloire de Dieu. Quand le vin manque, nous recourons à quoi? Aux traditions, aux choses de ce monde. Et des fois, nous allons même demander conseil aux païens. Et qu'est-ce que les païens disent? Ah, la femme t'a fait ça? Mais chasse-la! Chasse-la, c'est fini! Le problème est résolu! Nous sommes en train de recourir à quoi? Aux vases qui ont été utilisés pour le vin avant. Mais si nous voulons utiliser les vases destinés à la purification, nous allons recourir à la parole. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? La parole de Dieu va te dire, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Là, vous recourez au vase destiné à la purification pour votre mariage. Frères et sœurs, quels sont les vases que nous utilisons si nous voulons la restauration? Aux anciennes vases? Aux parrains que nous avions choisis parce qu'ils avaient de l'argent? Qu'est-ce qu'ils vont nous conseiller? Tout simplement nous induire, continuer à nous enfoncer. Mais nous devons recourir aux conseillers spirituels qui peuvent nous aider à reprendre les vases destinés à la purification. Et la joie était grande. On s'étonne en disant, mais ce n'est pas possible. Comment le vin produit, après, ce vin, il est mieux que le premier? Mais le premier était fait sur quelle base? Sur les bases de tradition et autres. Mais le nouveau vin est fait sur la base des vases destinés à la purification, sur la base spirituelle, sur la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu va produire dans la restauration va dépasser même ce que nous avions avant. Ça, c'est la restauration. Ce que nous avions. Si nous recourons à la parole de Dieu, nous allons voir que ce que le Saint-Esprit va produire en nous va être plus que ce que nous avions avant. Amen.
Amen.
Frères et sœurs, le vin peut manquer un jour dans notre vie. Le vin peut manquer un jour dans notre mariage. Le vin peut manquer un jour dans la famille. Mais nous devons regarder à quoi est-ce que nous voulons que le vin revienne. Le vin, c'est le bonheur. Le vin, c'est la joie. Le vin, c'est la paix. Le vin, c'est le paradis dans la famille. Et c'est pour cela que la famille, la raison d'être de la famille, ce n'est pas pour nous réjouir, ce n'est pas pour le sexe, c'est pour la gloire de Dieu. C'est ça la première raison d'être de la famille. pour que la gloire de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu soit dans la maison. Et quand la manifestation de la gloire de Dieu sera là, nous serons une bénédiction pour le monde. Et une famille qui n'a pas compris cela va produire des gangs. Les enfants seront des gangs, seront pour la destruction du monde au lieu que le bonheur sorte de la famille pour se répandre dans le monde. La manifestation de la gloire de Dieu va faire que quand les enfants sortent de la maison, ce sont les enfants qui continuent. Le royaume des cieux se répand. Ils sont formés pour le royaume des cieux. Ils sont formés pour le bonheur, pour la paix dans le monde. C'est pour cela que la famille existe. La famille existe parce que les œuvres de ténèbres doivent être continuellement détruites à partir de la maison, à partir de la famille. Pas encourager le diable avec des attitudes qui lui donnent de l'engrais pour qu'il détruise encore nos vies. On a des insomnies, on a l'estomac, tout simplement parce que mon mari, tout ce qu'il fait, ça me donne des maladies. Non, ce n'est pas ça la destinée de la famille. C'est pour que le paradis se vive sur la terre. À quoi est-ce que nous recourons quand nous voulons réellement qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie, qu'il y ait le bonheur dans la maison? Quand nous recourons à la tradition, c'est facile que nous allons encore aller d'échec en échec. Recourons à la parole. Asseyons-nous, mari et femme. Dialoguons maintenant. Qu'est-ce que tu me reproches? Qu'est-ce que tu me reproches? Écrivez ce qu'on te reproche. Sans dire non, mais là tu m'accuses de trop. Non, écoutez. Écrivez ce qu'on te reproche. Essayez maintenant de voir la lumière de la parole. Qu'est-ce que tu peux faire pour redresser ce qu'on te reproche? Vice versa. Parce qu'on veut beaucoup se justifier dans la maison. Le bonheur ne peut pas venir avec les justifications. Le bonheur va venir, on regarde la parole, qu'est-ce que je peux faire pour réellement redonner la paix, redonner la joie, remettre le bonheur, toutes les possessions volées là. Nous devons prendre les défis de les remettre. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Les traditions ne peuvent que nous amener à détruire davantage ce que le Seigneur nous a donné, les trésors que le Seigneur nous a donnés. Mais recourir aux vases de purification, recourir à la parole de Dieu, nous allons voir que la gloire de Dieu va rentrer dans la maison. Fais ce qu'il vous dira. C'est ça que nous pouvons dire aux frères et sœurs. Si nous voulons réellement que le bonheur revienne, faites ce qu'il va nous dire. Faisons ce qu'il va nous dire. Faisons, et la parole est pleine de promesses pour la restauration de la famille, pleine de promesses. Faisons ce qu'il nous dit de faire. Et Marie leur a dit, faites tout simplement ce qu'il va vous dire, vous allez voir les changements ici. Et le changement est venu, le bonheur est venu, la joie est venue, le vin était meilleur d'ailleurs. N'utilisons pas les vases de ce monde, les traditions de ce monde en pensant que nous allons réellement redresser, réellement retrouver le bonheur, les possessions volées par l'ennemi. Le vin peut manquer un jour, mais revenons à la parole, retournons à la parole. J'aimerais rapidement, avant de terminer, donner rapidement quelques principes de restauration. Rapidement, quelques principes de restauration. Le premier principe de restauration dans la maison, et c'est pour cela qu'une famille chrétienne, c'est une famille qui doit honorer Dieu, qui doit glorifier Dieu, parce que le pardon doit être le pain quotidien. Le premier principe de la restauration, c'est le pardon. Le premier principe de restauration, c'est le pardon. Et Matthieu 6, 14, 15 nous dit, si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas non plus. Mais imaginons la conséquence. On m'a fait quelque chose il y a 10 ans. Moi, je ne pardonne pas, je ne veux pas pardonner. Et Dieu me dit, tu sais que tu as tellement accumulé des choses que moi, depuis que tu vis là, je ne te pardonne plus. Le pardon. J'aimerais que nous lisions ça encore ensemble. Je ne sais pas si on a mis ça au tableau. Matthieu 6, le verset 14 et 15. que ces paroles restent vraiment comme un marteau dans notre vie pour que nous sachions aussi longtemps que nous n'avons pas pardonné, aussi longtemps que nous revenons toujours à la même faute, sans foi. Mais je t'ai déjà demandé pardon. Je t'ai déjà demandé pardon. On revient toujours, mais tu sais ce que tu m'avais fait. Tu sais ce que tu m'avais fait. Mais tu ne vas pas pardonner ça. Et Matthieu 4, 6, verset 14 nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et pourquoi nous pouvons vivre dans la maison? On ne se pardonne pas. On ne fait que se blesser. On ne se pardonne pas. Et Dieu dit, je ne vous pardonne pas non plus. Et ça, c'est grave pour une famille, pour un couple. Le premier principe, c'est vraiment le pardon dans la maison. Le deuxième principe de la restauration, voyez l'autre comme Dieu le voit. Voyez l'autre, voyez votre partenaire comme Dieu le voit. Vous le voyez très mauvais, vous le voyez très destructif, vous le voyez très mauvais. Est-ce que vous pouvez une fois changer en voyant, vous voyez que les fautes, transformez cela, voyez aussi les biens qui sont là. Voyez aussi le bien. Ça, c'est le deuxième principe de restauration. Arrêtez de regarder seulement mauvaises choses. Regardez aussi des bonnes choses. Le troisième principe de restauration, c'est de prendre du temps et de prier pour lui. Parce qu'on critique beaucoup, mais on ne prend pas du temps pour supplier la grâce du Seigneur. Je veux réellement que tu touches mon mari dans tel domaine, dans tel aspect. Fais-le voir, enlève-le le voile. Parle cela au Seigneur. Prie pour ton mari, prie pour ton épouse, prie pour les enfants. Que le voile s'enlève, qu'il voit réellement la vie en face, la réalité en face. Quatrième principe, c'est parler avec douceur. Pas faire comme Médard qui parle, mais on sent qu'il gronde. Apprenons à parler avec douceur. On peut dire quelque chose de bien, mais quand on le dit sans douceur, c'est vrai, ça perd tout son sens. Quatrième principe de restauration, parler avec douceur. Comme Proverbe 16, 24 nous dit, nous pouvons peut-être rapidement lire cela ensemble. Proverbe 16, 24. Verset 24. Le discours agréable sont un rayon de miel, douceur pour l'âme et remède pour le corps. Une parole douce, ça calme toutes choses. Même si vous voyez la personne monter, mais une parole douce, ça calme beaucoup, beaucoup de choses. Vous pouvez dire à une personne que vous l'aimez, mais le ton que vous utilisez va dire, mais vous mentez. Vous pouvez, j'ai toujours pris l'exemple de maïs. Alors, pour ceux qui ont grandi au village, qui connaissent comment les poules aiment le maïs, vous prenez le maïs, vous jetez doucement aux poules, vous allez voir, elles vont venir pour manger le maïs. Pardon. Mais prenez le maïs, jetez-le très fort sur les poules. Vous allez voir, les poules ne vont même pas manger le maïs, elles vont fuir le maïs. C'est vraiment la même chose avec la douceur. Une parole douce. C'est vraiment un très bon principe de restauration dans la maison. Cinquième principe de restauration. N'écoutez que ceux qui parlent positivement de votre mari, de vos enfants. Évitez d'écouter ceux qui parlent négativement de votre mari. On ne parle que du mal de votre mari. Tu sais, votre mari, là, il est toujours comme ça. Évitez d'écouter tous ceux qui parlent négativement de votre mari, même de vos enfants. Évitez vraiment cela. Sixième principe, n'agissez pas à la hâte avec les décisions. Souvent, ce qui détruit les couples, c'est vraiment une décision. On décide vite, on casse tout. On doit exercer la sagesse dans la famille. N'agissez pas à la hâte dans aucune décision. Et c'est pour cela, toujours en Proverbe 16, quand nous regardons le verset 7, Proverbe 16, le verset 7, nous allons voir, quand l'Éternel est favorable aux voix d'un homme, il dispose même ses ennemis à la paix. Nous devons apprendre réellement à ne point chercher vite la décision. Et même ce que Éphésiens 6, le verset, Éphésiens 4, le verset 26-27 nous dit, si vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Quand est-ce qu'on arrive à pécher? C'est quand on est en colère, les décisions commencent à tomber. Les décisions sur décisions. Et toutes ces décisions-là ne glorifient pas le Seigneur en ce moment-là. Si nous pouvons dire, si nous sommes en colère, ne prenons pas de décisions. Nous devons attendre que la colère passe. Et nous allons voir, c'est vraiment un très très bon principe de restauration. Septième principe de restauration, attention à la puissance de la parole. Attention à la puissance de la parole. Parce que tout a été créé avec la parole. Toutes les paroles négatives que nous prononçons sur l'autre, ces paroles, c'est une semence. Dans la restauration, nous devons apprendre à prononcer des paroles dont le Seigneur peut se saisir pour transformer l'autre. Et je peux, par exemple, demander que nous lisions rapidement... Où est le modérateur? Il me reste combien de temps? 5 ou 6 minutes? Six minutes. Ok. Je vais bientôt clôturer. Nous allons entrer dans un moment de prière. Je voulais que nous lisions Matthieu 12, le verset 36. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée, qu'ils auront proférée. Il y a un pouvoir dans la parole. Il y a un pouvoir dans la parole. Nous devons vraiment tenir compte des paroles prononcées. Ne parlez pas du mal de votre conjoint aux membres de sa famille. Et ça, c'est très fréquent. Et ça détruit énormément. Ça détruit énormément. Ne parlez pas du mal de votre conjoint ou membre de votre famille. Et vous devez prendre les gardes. Vous devez être le gardien de votre mari. Le gardien de votre épouse. N'écoutez jamais votre frère, votre soeur parler du mal de votre mari. Vous devez vraiment vous tenir en gardien pour dire, je ne veux pas que tu parles du mal de mon mari. Et si c'est vous qui lui ramenez tout ce que votre mari le fait, vous êtes en train de détruire davantage. Parce qu'entre vous, vous allez arranger, mais vous n'allez pas partir chez eux pour arranger. Ils vont voir votre épouse, votre mari, tel que vous leur avez raconté. Le dixième principe, rapidement, j'en ai déjà parlé, c'est la prière. Huitième. Ne parlez pas du mal à votre conjoint. Ne mettez pas, neuvième, c'est ne mettez pas. Ne permettez pas à vos enfants de venir parler du mal de leur mère ou de leur père. Ne permettez pas cela. Cela va détruire beaucoup la vie dans la maison. Ne permettez vraiment pas cela. Et le dixième principe, c'est vraiment la prière. On revient encore à la prière. Et nous avons suffisamment parlé de la prière hier. La prière doit être la base de tout dans la maison. Une maison sans prière, c'est comme une famille sans prière, c'est comme une famille, une maison sans toit. C'est dans la prière que nous avons la protection. C'est dans la prière que nous couvrons la maison du sang de Jésus. C'est dans la prière que nous détruisons, même quand le mari, la femme est au travail, les enfants sont à l'école, que nous sommes en train de détruire tous les plans de l'ennemi. La prière, c'est la base de la restauration dans la maison. Onzième principe, chercher un partenaire de prière pour le soutien de votre famille. Et souvent, ça, c'est le travail vraiment des parents si les enfants sont déjà partis. Cherchez des partenaires, les gens dont vous savez que ces gens doivent prier pour vous. Tous, nous avons besoin de la prière. Quel que soit notre niveau spirituel, quel que soit ce que nous avons atteint, il faut qu'il y ait des gens qui prient, qui supplient la grâce du Seigneur sur votre famille. C'est un des principes très, très importants, le partenariat dans la prière. Deuxième principe, je ne sais pas à quel niveau vous êtes. 11e ou 12e, c'est suivant votre classification. Aucun mariage n'est désespéré. Aucune famille n'est désespérée. Et quand nous avons cela en tête, beaucoup de choses changent. Quand nous savons qu'aucun mariage n'est désespéré, ça signifie nous avons le restaurateur qui peut changer tout en un clin d'œil. Ça dépend de nous, les acteurs. Quand nous regardons Matthieu 19, le verset 26, rapidement, le verset 26, merci. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est possible, mais à Dieu tout est possible. Ça c'est le principe que nous devons garder dans la maison si nous voulons vraiment aller loin. Gardez vraiment, tout est possible avec Dieu. Nous sommes en train d'attendre une bénédiction. Nous sommes en train d'attendre quelque chose de la part du Seigneur, sachant que tout est possible à celui qui croit. N'avançons pas avec le désespoir sur n'importe quel aspect de la vie familiale. Tout est possible à celui qui croit. À Dieu, tout est possible. Aucun désespoir ne peut être enregistré dans la famille pour les enfants de Dieu. Je vais terminer avec le dernier principe de restauration dans la famille. C'est une question, combien de temps, Seigneur, ça dure? Combien de temps ça dure, Seigneur? C'est que Dieu exige, quand nous posons une telle question, combien de temps ça dure, Seigneur? Je veux voir mon fils revenir à la maison. Combien de temps ça dure, Seigneur? Je veux voir ma femme revenir au bon sens, mon mari revenir au bon sens. Combien de temps ça dure? Le Seigneur attend de nous notre obéissance. Le Seigneur attend notre obéissance pour qu'il puisse continuer à travailler, pour qu'il puisse continuer à agir. Combien de temps ça dure, Seigneur, que nous sommes en train d'attendre telle ou telle bénédiction? Le Seigneur nous redit encore, tout est possible à celui qui croit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne faisons pas nourrir le désespoir est diabolique. Mais l'espoir, l'espérance, la foi, c'est ça que Dieu veut. Nous allons prier.
Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à porter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi.
Frères et sœurs, ces paroles que nous avons écoutées tout le long de ce camp exigent vraiment un défi personnel sans regarder ce que mon mari va faire, un défi personnel sans regarder ce que ma femme va faire, un défi personnel sans regarder ce que mes enfants vont faire. Le Seigneur a parlé à chacun, à chacune, individuellement. Personne n'est épargné, moi y compris. Personne n'est épargné sur tout ce que nous avons parlé dans la famille. Il y a des fissures partout. Il y a des destructions partout. Il y a des possessions volées. J'aimerais que nous puissions, pendant ce temps de prière, que nous puissions réellement dire, Seigneur, tu m'as parlé. Seigneur, je veux avancer dans l'obéissance. Je veux avancer avec toi. Je veux réellement voir combien je suis incapable moi-même de faire quelque chose. Mais je me confie à toi. Élevons nos voix et prions individuellement. Alléluia. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Oh Seigneur. Pardon Seigneur. Pardon chaque fois que nous n'avons pas pu faire ce que tu nous as demandé de faire. Et tu nous dis chaque fois, faites ce que je vous dis. Faites ce que je vous dis. Faites ce que je vous dis de faire. Tu es un Dieu capable, Seigneur. Tu es un Dieu qui restaure. Tu es un Dieu capable, Seigneur. Ceux qui sont dans la salle touchent les vies, touchent, Seigneur. L'amour. Que l'amour renaisse dans les vies. Que le pardon prenne possession, prenne place. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es un Dieu capable. Tu ne fais rien au hasard, Seigneur. Tu ne fais rien au hasard, notre Dieu. Tu ne fais rien au hasard, Seigneur de gloire. Donne-nous à être vraiment l'un et l'autre serviteur, servant. Donne-nous à être l'un et l'autre, serviteur et servant. Oh, quelle grâce. Quelle grâce. Alléluia. Je vais demander au pasteur Samuel de lever la voix, de recommander tous nos cœurs brisés. Le Seigneur, par l'action du Saint-Esprit, nous a nécessairement parlé. Et les terrains d'action, les terrains d'application, ça va être quand nous rentrons, nous devons apprendre à nous asseoir ensemble, à nous regarder en face. Si nous n'avions peut-être pas l'occasion de nous regarder, ça fait des années, à nous regarder en face en disant, nous travaillons pour qui dans cette maison? Travaillons-nous pour le diable, pour continuer à l'encourager, ou nous devons vraiment travailler pour que la gloire de Dieu se manifeste dans cette maison? Prions le Seigneur.
Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es le Dieu qui nous écoute lorsque nous nous approchons de toi. Lorsque nous répandons nos cœurs devant toi, tu ne tardes pas, Seigneur, à nous venir en aide. Et ce matin, tu as vu combien nos cœurs sont tournés vers toi, attendant la délivrance. Attendant que toi, le Dieu de Jésus-Christ, tu opères, tu interviennes, parce que tu connais la voix de chacun de nous. Tu connais la vie de chacun de nous. Et tu connais toutes les familles qui sont représentées ici. Tu connais leur joie, leur déboire aussi. Tu connais leurs attentes. Seigneur, nous t'invoquons parce que tu es le Dieu qui restaure, qui renouvelle. Tu es le Dieu qui transforme. Et tu es le Dieu qui montre la voie à suivre. Et Seigneur, merci de nous montrer la voie. Merci du fait que tu nous as instruits et que maintenant, Seigneur, nous avons des défis à relever. Merci pour tous ces défis qui se sont présentés devant nous. Et merci, Seigneur, parce que tu es celui qui nous donne encore la force par le Saint-Esprit pour accomplir ta volonté. Merci de nous aider à revenir à ta parole. Merci de nous aider à revenir à ta parole et ne pas seulement à l'entendre, ne pas seulement à la prêcher, non pas seulement à la méditer, mais Seigneur, à la mettre en pratique. Merci. Parce que tu es celui qui vient en aide là où il y a le manque. Là où il y a de manque de sagesse, tu es le Dieu qui donne la sagesse. Là où il y a le manque d'amour, tu es le Dieu qui retourne l'amour. Là où il y a le découragement, toi tu es le Dieu de l'espérance. C'est pourquoi notre Père et notre Dieu, nous te rendons gloire. Nous te bénissons parce que nous ne pouvons pas désespérer du fait que notre Seigneur, le souverain pasteur, Jésus-Christ le juste, est vivant. Nous savons qu'avec lui, rien n'est impossible. Et qu'avec lui, nous avons toujours la victoire. Avec lui, il y a celui qui ramène le cœur des enfants à leur père. Et tu es celui qui fait aussi que le cœur de parents se tourne aussi vers le cœur de leurs enfants pour leur donner de l'amour qu'il faut. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu compatissant et tu es le Dieu qui agit. Ton peuple réuni ici à Ottawa pour t'honorer, t'es glorifié, comme nous l'avons entendu. Tu es le Dieu qui honore ceux qui t'honorent.
Amen.
Toi, tu n'es pas le Dieu qui oublie tout ce que l'on fait pour toi.
Alléluia.
Et c'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous te supplions maintenant, au nom de Jésus-Christ, de descendre en ces lieux, par ton Esprit Saint, de nous oindre de ta force, de ta puissance, pour que nous puissions relever nos têtes. Parce que tu connais là où nous marchions, de tête baissée, comme si toi tu n'étais pas là, alors que tu es vivant, alors que tu n'as pas changé, alors que tu dis que tu es celui qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Même dans nos déboires, tu es avec nous. Dans nos désespoirs, tu es avec nous. Mais tu ne nous as pas créés pour que nous puissions vivre dans le désespoir. Tu nous as créés pour que nous puissions accomplir ta volonté. Et ce que tu veux est que nous relevions nos têtes, nous nous tournions vers toi. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Gloire à ton nom. Merci Seigneur de visiter tous ceux qui ont ouvert leur cœur vers toi. Tous ceux qui ont le cœur contrit. Merci de visiter maintenant. Par le Saint-Esprit, nous te prions, Seigneur, d'opérer, de changement. Merci, parce que tu es ce Dieu qui écoute la prière. Et dans ta parole, il est dit, toi qui écoutes, toi qui exauces la prière, tout le peuple viendront à toi.
Alléluia.
Et c'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ici. Priant pour que tout le peuple se tourne vers toi. Nous te remercions, Père. Et nous voulons t'acclamer pour ce que tu as fait. Gloire à toi. Gloire à toi. ton nom. Je bénis éternellement et le Dieu qui opère, le Dieu qui vient et le Dieu qui transforme. Gloire à ton nom. Par Jésus notre Seigneur. Nous voulons tous dire Amen.
Amen. Merci Seigneur.